Gloire à Dieu, nous continuons notre série Béréen l'explorateur en utilisant le livre de Proverbes, Proverbes de Salomon, qui a reçu une grande sagesse de la part de Dieu. Et lorsque nous lisons ce livre, nous nous rendons compte du fait que c'est un don qui est venu de Dieu, puisque dans un seul chapitre, nous pouvons trouver beaucoup, beaucoup de conseils précieux. C'est ce qui va être encore le cas aujourd'hui avec le chapitre 16 et 17. Mais toutefois, le chapitre 16 est consacré à démontrer également la souveraineté, la maîtrise totale de tout de Dieu. Donc quand nous allons lire le chapitre 16, nous allons voir cela, que Dieu est souverain. C'est-à-dire qu'il n'a de compte à rendre à personne. Et il est le chef de tout. Non seulement cela, il maîtrise tout, même le mal. Voilà, donc c'est ce qu'on va lire dans le proverbe, dans le chapitre 16. Nous commençons donc proverbe 16.
Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal.
Voilà. Donc déjà, en cette première partie, nous voyons ce qui concerne la grandeur, la souveraineté et la maîtrise de Dieu surtout, le contrôle de Dieu surtout. Car il est dit, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Finalement, même quand l'homme fait des projets, c'est Dieu qui réalise ce que lui il veut. Et nous pourrions avoir l'impression que nous avions décidé quelque chose et que ça s'est accompli. Nous nous disons, c'est nous qui avons fait les choses. Mais ce verset nous dit, non, mais c'est l'Éternel qui a la réponse, malgré tout. Malgré le fait que le projet vient de l'homme, même quand il est président. Le proverbe 16 va nous amener à la tranquillité de savoir que même quand le méchant prospère, ce n'est pas par la force du méchant, c'est en réalité Dieu qui laisse faire. Donc le méchant n'est pas si puissant qu'on le penserait. Voilà, c'est extraordinaire. Il dit, c'est finalement lui qui décide. Même si nous avons l'impression qu'il y a eu tout un complot et puis ça a marché. Mais ce verset nous dit, non, mais c'est quand même Dieu qui décide. C'est en réalité lui qui décide. Parce que nous ne nous rendons pas compte du nombre de complots aussi qui n'ont pas marché. Il y a beaucoup de complots qui n'ont pas marché. Mais nous, on retient que ce qui a marché, pour penser que l'homme a une force personnelle pour réaliser les choses, ce n'est qu'une impression. Et le verset 2 nous dit, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Là encore, nous voyons la maîtrise de Dieu de tout. Alors que même chacun pourrait penser avoir raison sur tel ou tel autre domaine, mais en réalité, avec le temps, on finit par réaliser que c'est Dieu qui sait réellement les choses. Dans un verset du Nouveau Testament, le frère Paul dit, « Je ne me reproche rien. Hein, » Et quand il se regardait, il s'examinait lui-même, il n'avait rien à se reprocher. Mais il a ajouté, « Mais ce n'est pas moi qui vais me juger, c'est Dieu qui nous jugera, nous tous. » Donc, il avoue que son jugement sur lui-même n'est pas péremptoire, n'est pas définitif. Car celui qui juge réellement, c'est Dieu. Voilà. Ça nous appelle à l'humilité. Ça nous appelle à à refouler la prétention. Et il est écrit aussi, voilà, l'Éternel voilà, a fait tout pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. C'est un verset qui trouble beaucoup de personnes. Même le méchant, c'est Dieu qui l'a fait pour le jour du malheur. Comment comprendre tout cela? Oui, question?
Il y a une question internet qui dit, comment comprendre, en fait, Proverbe 16, 1, comment comprendre ça en comparaison de Luc 6, 45, qui dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est du cœur...
Tu n'as pas fini, c'est du cœur. C'est de l'abondance,
Du cœur
que la bouche parle.
La bouche parle, oui.
Oui, mais là, quand on parle de la bouche ici, la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. C'est-à-dire que la décision finale, c'est Dieu. Il ne s'agit pas de la même bouche là. Par exemple, quelqu'un peut injurier. Ce verset de Luc 6 veut dire que c'est de son cœur que c'est venu, parce que souvent les gens disent, mais il était ivre. Mais nous-mêmes dans le monde, les gens disaient, mais dans l'ivresse, les gens sortent en réalité ce qui était dans leur cœur. Voilà. C'est ce que veut dire Luc 6. Et que quand quelqu'un agit, quelqu'un fait des choses, ça vient du cœur. Voilà. Mais là, ça veut dire que la bouche, c'est la bouche qui décide. Voilà. Mais c'est la bouche de Dieu qui décide. Voilà. C'est Dieu qui décide. C'est pris dans ce sens-là que finalement, l'ordre vient de Dieu. Finalement, la bouche qui prend les décisions, qui donne les décisions, c'est Dieu. Oui, une autre question.
Moi, je voulais rebondir sur le verset 4 du chapitre 6 qui dit... même le méchant, l'Éternel l'a fait pour le jour...
Du chapitre 16.
Oui, oui. Le faire, ça sous-entend qu'il ne choisit pas... Selon ma conception à moi, l'Éternel nous a fait libres. On a le choix entre le bien et le mal. C'est-à-dire, en prenant nos décisions, on prend la décision selon l'esprit pour ceux qui sont enfants de Dieu, de faire tout ce qui est juste, puisqu'on est esclave de la justice. Et celui qui est sous la domination du monde, il prend les décisions selon la chair qui conduit à l'iniquité et tout le reste. Mais quand on dit, même le méchant, l'Éternel l'a fait, c'est comme si il n'a pas eu le choix qui s'offre à tout le monde de prendre la décision. Il est créé en tant qu'enfant, il a déjà une... la notion de prédestiné qui est déjà derrière tout ça, dans le sens où, quelles que soient les bonnes décisions qu'il va prendre, au final, il finira en enfer parce qu'à la fin, il a cette nature pécheresse en lui qui l'oblige à ne pas se convertir et finir en enfer. Ça fait que...
Ça donne l'impression que Dieu a créé certaines personnes pour être méchants, pour faire du mal. Voilà, je dis bien, ça donne cette impression, mais nous devons prendre la parole dans sa totalité. Donc, Dieu est amour, toutes ses décisions sont bonnes, puisqu'il est amour, il ne peut vouloir faire que le bien. Maintenant, quand le méchant est en train de tuer, de frapper, qui le soutient dans ça? C'est quand même Dieu, puisque l'énergie... Qui fait agir ce méchant-là, qui lui, ce méchant, le souffle, la respiration, c'est Dieu qui donne. Sans Dieu, on ne peut pas voir ça. Donc c'est dans ce sens-là que c'est dit qu'il fait le méchant pour le jour du malheur. Non pas qu'il conçoive du mal, lui, Dieu, mais c'est... Justement, je me préparais à ça, à parler de ça, et c'est dans sa nature de tout connaître, et de tout utiliser pour ses objectifs à lui, qui en totalité sont bons. Mais dans ce travail-là d'ensemble, il y a l'action du méchant aussi, que Dieu permet et veut bien pour des objectifs qui sont bons. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que le méchant n'a pas à choisir. Voilà. Donc, c'est, quand on dit « il fait le méchant pour le jour du malheur », malheur, c'est parce qu'au verset 5, c'est dit « certes, il ne restera pas impuni ». Comment Dieu va punir maintenant des gens que lui-même a construit comme mauvais. Voilà. Donc c'est, je ne peux pas apporter une réponse claire à tout cela. Moi, je veux tout simplement nous dire que nous devons prendre toute la Bible. Nous ne devons pas rester bloqués à un passage qui dit qu'il fait le méchant pour le jour du malheur et rester sur ça. Nous devons aussi prendre ce qui est écrit, il ne veut pas la mort du méchant, mais il veut que le méchant se repente. C'est aussi un verset.
Voilà. Oui, donc, j'allais rebondir sur ce verset qui est dit dans 2 Pierre 3, je ne sais pas, un peu plus bas, vers 9, qui dit « Le Seigneur tarde dans l'accomplissement de ses promesses afin que tous parviennent à la repentance pour être sauvés. » Dans le sens où il permet que le méchant fasse le mal et en espérant qu'il se rende compte de tout ce qu'il fait et se répand bon, avant
moi,
le jour
du... Moi, je ne veux pas trop analyser Dieu. Voilà, c'est ça le but du proverbe. C'est, je voulais nous dire, attention à faire des théories sur la nature de Dieu. Restons dans ce qui est humain. Deutéronome 29:29 nous dit, ce qui est caché est pour Dieu, ce qui est révélé est pour nous. Donc, c'était ça la conclusion que j'allais apporter dans le proverbe 16, parce que j'allais présenter cette complication que nous avons devant nous. C'est que l'impression qu'on tire, ça va continuer hein, dans la lecture du proverbe 16, l'impression qu'on tire de cela, ben, c'est que c'est Dieu qui pilote tout, qui fait tout. Alors, comme dit le frère Paul, les gens vont se dire, mais dans ce cas, pourquoi il blâme les gens, puisque c'est lui qui est à l'origine de tout. Mais non, en réalité, les gens ont leur part, mais si on reste bloqué par un verset, on ne va pas tout comprendre. Et il faudrait éviter de chercher à saisir Dieu. Dieu est insaisissable. Retirons ce qu'on peut retirer. Pour moi, ce que je retire de tout ça, c'est que Dieu maîtrise tout. C'est ce que j'ai mis en titre. Dieu maîtrise tout. Voilà. Maintenant, quand il dit qu'il fait le méchant pour le jour du malheur, ce mécanisme-là m'échappe. Ce que je peux savoir de sûr, c'est que l'énergie du méchant, ce n'est pas l'énergie que le méchant créait, c'est une énergie dont Dieu est à l'origine. Voilà. L'énergie, pas son mal, mais l'énergie qu'il utilise pour faire le mal, c'est une énergie que Dieu lui a donnée. Maintenant, dans tout cela, la Bible est claire, Dieu est amour, ses objectifs sont le salut et la joie pour tous. Et nous venons de lire qu'il fait le méchant pour le jour du malheur, mais c'était aussi écrit dans un autre verset qu'il ne veut pas la mort du méchant, il veut que le méchant se repente. Donc, penser que Dieu ait figé certaines personnes de sa propre volonté juste pour les faire souffrir, c'est faux. Donc, je pense qu'il y a une complexité liée à la nature de Dieu et à sa souveraineté qui nous échappe. Nous pouvons, pour mon cas, pour ma part et pour d'autres personnes, retirer de cela que Dieu est au contrôle. Donc même le mal est sous contrôle. Donc tout ça, ça reste quand même Dieu qui soutient tout cela, même le mal. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un qui veut que le mal soit. Mais il soutient tout cela. C'est ce qu'on peut retirer, puisque c'est de qui il fait le méchant pour le jour du malheur. Donc il soutient quand même ce méchant-là pour ce jour, pour l'amener au jour du malheur. Mais est-ce que ça fait de lui quelqu'un qui a bloqué certaines personnes? Non. Voilà. Les gens, puisqu'il y a d'autres passages bibliques qui montrent que les gens sont libres aussi. Moi, je nous conseille de retirer ce que notre cerveau peut saisir et la complexité de la nature de Dieu lui laisser. Le malheur, c'est que beaucoup ont dressé des théories concernant la nature de Dieu. Ça a créé des troubles au milieu des chrétiens. Les calvinistes considèrent que tout est prédestiné, rien ne peut bouger. Parfois même, tu veux prier pour des gens, pour leur conversion, ils vont te dire, ça ne sert à rien de prier. Seuls les élus vont se convertir malgré tout. Voilà. Donc tout ça, c'est l'homme qui veut maîtriser, contrôler ce qui concerne la nature de Dieu. Ne nous préoccupons pas de ce qui concerne sa nature profonde. Préoccupons-nous de ce qui concerne sa nature qui a une implication sur le salut des humains. Préoccupons-nous de son amour, de sa bonté, de sa droiture, mais la complexité de sa gestion de l'univers, laissons-lui cela. C'est ça, quoi. De temps à autre, imitons nos grands frères. De temps à autre, que ce soit Pierre, que ce soit Paul, ils ont parlé de ces sujets un peu complexes dont on va parler, dont on parle aujourd'hui, mais ça fait 3 à 5% de leur prédication. Mais lorsque des mouvements en font la base de leur doctrine, ils créent des problèmes dans l'Église universelle, ils créent des problèmes chez les enfants de Dieu, ils créent des problèmes inutiles. Donc faisons de ça, là, comme là nous n'avons pas échappé à ça, nous en parlons, mais ce n'est pas le sujet principal de notre prédication. Le sujet principal de notre prédication, c'est Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point qu'il ait, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc nous proposons aux gens de croire pour qu'ils reçoivent la vie éternelle. C'est ça le sujet principal de notre prédication. De temps à autre, nous pouvons égratigner ce genre de sujet complexe, mais que ça reste des égratignures, que ça n'aille pas loin. Voilà. Nous continuons.
Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis.
Voilà. Donc, quand Dieu approuve quelqu'un, même ses ennemis seront au travail pour lui. Tout ça est fort. Tout ça nous amène à quoi ? À aimer les ennemis. Parce que quand Jésus dit « Aimez vos ennemis », on se dit « Mais ah !» Quand même. Mais quand on complète la phrase de Jésus avec ce qu'on vient de lire, c'est que les ennemis travaillent pour nous. On se dit, ah ben donc Jésus a raison de nous dire d'aimer les ennemis, parce que dans tous les cas, dans leur méchanceté, c'est pour nous qu'ils œuvrent. Nous, on va retenir, mais il m'a giflé, il m'a mal parlé, il a fait un coup. Mais ce verset nous dit que tout ça contribue à notre bien. Il dispose favorablement même nos ennemis. Nous, on attend seulement le favorablement, que ce soit qu'un ennemi nous fasse du bien sans le vouloir. Non, même le mal qu'il nous fait est en notre faveur, puisqu'il y a un autre verset qui dit « Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu ». Vous voyez, il y a une globalité de la pensée de Dieu qui est que tout est maîtrisé par lui, et comme il nous aime, c'est en notre faveur. Voilà. C'est ça la globalité de la pensée. Quand on lit tout, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Donc ce que font ses ennemis, notamment l'histoire de Joseph et ses frères, finalement c'était pour le bien de Joseph, et Joseph l'a reconnu. Il leur a dit, mais ne vous inquiétez pas, le mal que vous m'aviez fait, c'était à ma faveur. C'était pour moi, c'était pour mon bien, et le bien de tous. Voilà. Quand on saisit ces choses, voilà, ça nous rend paisibles. On aime tout le monde, même ceux qui nous forment de pièges, même ceux qui nous poignardent par derrière, nous considérons que c'est pour notre bien. Ça change tout, hein, ça change tout. Et ils disposent favorablement même les ennemis. Nous voyons la cohérence de la Bible. Il est dit ceci là, et Jésus va dire, aimez vos ennemis. C'est cela, verset. Mais, comme nous venons de lire verset 5, certes, il ne restera pas impuni. Donc, les gens qui font le mal, ils ne resteront pas impunis. Donc, ça veut dire qu'ils ont leur part dans l'affaire, parce que Dieu est juste. Nous connaissons certains versets où Dieu dit lui-même qu'il a suscité des nations pour punir son peuple Israël. C'est écrit clairement que c'est lui qui a monté ces nations-là contre son peuple. Même leur donner la force contre son peuple. Mais c'est écrit, mais il jugera aussi ces nations-là. Ça veut dire que ces nations-là ont leur part dans cette affaire. Donc tout ça procède d'une certaine complexité. Essayons de retirer ce qui nous fera avancer, pas ce qui nous fera tourner en rond, comme au 7e siècle où le débat c'était quel était le sexe des anges. Voilà. Donc ça a fait perdre du temps à l'Église. Nous continuons verset 8.
Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas.
Ah, toujours, ça continue. Donc même les Hitler, c'est Dieu qui dirigeait leurs pas. Nous continuons.
Des oracles sont sur les lèvres du roi. Sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Le poids et la balance justes sont à l'Éternel. Tous les poids du sac sont son ouvrage. Les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois, et ils aiment celui qui parle avec droiture. La fureur du roi est un messager de mort, et un homme sage doit l'apaiser. La sérénité du visage du roi donne la vie, et sa faveur est comme une pluie du printemps. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux.
Voilà, quand c'est dit l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute, parfois nous n'avons pas vu ça avec nos yeux. Nous avons vu des gens manifester, comme par exemple Macron, manifester une forte arrogance, mais gagner les élections après. Mais lorsque nous lisons ce passage, nous nous disons, mais ayant manifesté une telle arrogance, c'est maintenant la chute et nous nous attendons à ce qu'aux échéances prochaines, ou bien dans les mois à venir, la personne tombe brutalement. C'est regarder les choses que sous un angle. Vous savez, une courbe à la forme d'une bosse, ben, elle monte jusqu'à un sommet. Et le sommet, c'est l'arrogance exagérée de quelqu'un. Mais ce n'est pas parce que la personne atteint. Quand on dit que c'est le moment de la chute, ça ne veut pas dire que la personne va se retrouver tout de suite par terre. Mais la phase descendante commence. Parfois, nous nous disons, mais Dieu n'a pas... Ce verset ne s'est pas accompli pour un tel. Pourtant, on a vu le maximum de son arrogance. Mais non, ce que nous ne voyons pas, ce qui se passe déjà dans le monde spirituel, c'est que la personne commence à descendre. Et puis un jour, nous allons la voir par terre en disant, mais comment c'est arrivé? Mais ça avait déjà commencé, mais nous, on n'avait pas accès à cette descente. Bien-aimé, par exemple, un président qui reste au pouvoir, par exemple comme le Mitterrand, il a gardé le pouvoir, mais... Nous ne savions pas à l'époque qu'un cancer avait déjà commencé en lui. À nos yeux, l'homme arrogant continuait, mais en réalité, la phase descendante avait déjà commencé. C'est ça que nous négligeons de voir, qu'il y a un sommet et une phase descendante après. Donc quand ce verset dit que... Au verset 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. C'est vrai, mais souvent nous ne voyons pas le commencement de la chute puisque nous ne sommes pas dans le voisinage proche de la personne qui commence à chuter. Nous voyons de l'extérieur et nous sommes limités. Mais la chute de la personne a déjà commencé. Et un jour, nous allons voir la personne par terre, donc son apogée. Donc le maximum d'orgueil, c'est aussi l'apogée de quelqu'un. Sa chute commence. Dieu décide à partir d'un certain moment que c'est fini. La chute, l'orgueil a dépassé les bornes. La chute commence. Voilà. Là, il est écrit au verset 14, « La fureur du roi est un messager de mort et un homme sage doit l'apaiser. La sérénité du visage du roi donne la vie. » C'est important, même c'est écrit dans le Nouveau Testament. Il ne faut pas mépriser les conducteurs parce que s'ils murmurent, eh bien, ce n'est pas bien pour les personnes. Ce sont des réalités spirituelles. Et du coup, les conducteurs aussi doivent obéir à Jésus pour toujours bénir et aimer. Parce que c'est clairement montré là que quand ils ne sont pas, les responsables sont tristes, sont en amertume, ce n'est pas bon pour tout le monde, c'est écrit ici et confirmé dans le Nouveau Testament. Donc c'est la responsabilité de tout le monde de faciliter la tâche aux responsables et c'est la responsabilité des responsables d'aimer toujours, de bénir malgré les torts qu'ils peuvent subir. Voilà. Tout le monde doit se sentir concerné par ce passage. Nous continuons.
Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux.
Nous avons envoyé trois pensées du jour ces derniers temps. Faire le point, ça va avec ce proverbe 16-20. Il faut parfois prendre du temps, méditer, réfléchir, ne pas être dans les choses de Dieu sans réflexion. Puisque, vous savez, il y a plein de gens qui suivent des croyances, des tendances, sans réflexion, parce qu'ils ont hérité de ça naturellement. Il y a tel rite initiatique, tout le monde doit passer par là. Telle façon de faire, tout le monde doit passer par là, sans réflexion, parce que les aînés ont fait ça, la tribu a toujours fait ça, dans mon pays on a toujours fait ça. Beaucoup de choses se font comme ça, mais Dieu ne veut pas ça. Dieu veut qu'on médite. Il n'y a pas de honte, comme on a dit dans cette pensée du jour. Si tu penses être dans la vérité, n'aie pas peur de méditer sur ta croyance, ta foi. Faire un résumé. Le Jésus en qui je crois, comment je suis sûr que c'est vraiment lui? Comme on va faire un séminaire dans la région parisienne intitulé « Pourquoi Jésus ?» Il faut faire ce travail-là de te dire, puisque nous pouvons nous tromper, nous sommes des humains, il faut faire ce travail de dire, mais pourquoi je suis sûr que c'est Jésus seul qui sauve? Que tu recherches des éléments. Et là, quand tu sors de cette réflexion, tu es fort. Mais qu'est-ce que Jésus me promet? Parce que nous avons vu le garçon de Luc 15, le fils aîné. Il était chez son père. Mais il vivait comme un ouvrier, comme un pauvre, alors qu'il avait un papa très riche et il était encore dans la maison de son père. Papa riche et puissant, mais lui vivait comme un travailleur. Et le jour où il voit que son petit frère qui a fait des bêtises, mais qui s'est repenti, qu'on l'élève, qu'on lui fait une fête, il ne comprend pas. Parce qu'il n'a jamais médité sur son père. Il n'a jamais réfléchi sur son père. Il a vu, il s'est préoccupé que d'un seul angle, son père, c'est un donneur d'ordre. Il est resté que sur cet angle-là. Il n'a pas médité sur tout. C'est très important de réfléchir sur les choses, de méditer. Parce que quand on réfléchit, on peut voir des angles qu'on avait négligés. Ce garçon-là vivait comme ça dans une sorte d'aigreur. Et quand il voit qu'il y a une telle joie concernant son petit frère qui a fait des bêtises, il ne comprend pas. Mais c'est là que le papa lui dit, mais mon ami, mon fils, toi tu es toujours avec moi. Donc en réalité, tout ce qui est là, c'est à toi, c'est toi le chef. Qu'est-ce qui est compliqué que tu te fasses tuer un chevreau pour manger avec tes amis? C'est toi qui n'as jamais réfléchi, c'est toi qui ne t'es pas intéressé. Il est resté sur un angle. Mon père, c'est un donneur d'ordre. Il n'a jamais regardé au reste. C'est important, bien-aimé, qu'on fasse le point. Mais je crois en quoi? Parfois, tu es malade, ça fait 15 ans. Tu restes seulement sur un verset. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Mais non, mais il n'y a pas qu'un verset dans la Bible. Il y a aussi un verset qui dit qu'à la croix, Jésus a pris nos maladies. Donc tu ne peux pas rester que sur un verset tout concours. Moi j'aime mon Dieu quand il arrive. Mais oui, mais il n'y a pas que ça. Quoi qu'il arrive, c'est très bien, mais il y a aussi l'héritage. Christ est mort à la croix pour moi. Je ne peux pas me laisser dans la maladie comme ça, comme si j'étais démuni. Je dois réclamer à Dieu ma guérison. en fonction de l'œuvre accomplie par mon Seigneur. Et il est honoré quand je réclame comme ça. Il voit que j'ai compris ce qu'il a fait pour moi. C'est ça, réfléchir sur les choses. Il faut qu'on réfléchisse sur les choses. Il ne faut pas qu'on laisse les choses rester dans l'état, suivre comme ça, puisqu'on a déjà, on s'est engagé en tant que chrétien. On ne recule pas, allez. On continue notre chemin sans méditer, sans... Non. Il est écrit que le garçon, hein, lui, le petit, qui a fait des bêtises, à un moment, il est rentré en lui-même. Il a réfléchi, il a dit, mais chez mon père, les ouvriers mangent de loin, ils ont de la nourriture en abondance, les ouvriers, mais moi je suis quand même le fils. Je vais y retourner en tant qu'ouvrier. Je vais lui demander pardon, qu'il m'accepte juste en tant qu'ouvrier parce que j'ai fait de grosses bêtises. Vous voyez où la réflexion mène? Tu réfléchis, tu dis, mais non, mais finalement, après tout, moi je me souviens, quand j'étais à l'école primaire, il y a un garçon qui me maltraitait. Et tu rentres à la maison, le lendemain tu vas à l'école, on te maltraite. Mais le jour où j'ai réfléchi, je dis, oh, mais moi j'ai mon grand frère aussi. J'ai dit à mon grand frère, et j'avais encore mon oncle qui avait le même âge que mon grand frère, je leur ai dit, mais j'ai eu mal comme ça parce que quelqu'un m'a frappé. Ah, le lendemain, ils sont venus avec deux de leurs amis. Eux, déjà, ils étaient grands de taille, alors qu'on n'a pas une grosse différence, mais à l'époque, ils étaient déjà plus grands de taille que nous de loin. Et en plus, ils ont amené deux amis. Et eux, ils étaient dans l'école des gens où il y a des gens forts. Mais ils viennent maintenant avec deux amis. Bien aimé, ils ont soulevé le garçon là comme... Donc chacun, deux personnes, ils n'ont pas eu besoin d'être à quatre. Deux seulement l'ont pris à gauche et à droite, ils l'ont soulevé comme du papier. Ils l'ont giflé devant tout le monde. Depuis, j'étais devenu le roi à l'école. Mais il fallait se souvenir que... Ah mais moi aussi j'ai des grands frères. Mais si tu ne réfléchis pas, tu continues la vie comme ça. Tu continues la vie. Il faut réfléchir sur Dieu et se dire, mais finalement, est-ce que ce que je fais là correspond à ce que Dieu attend? Est-ce que là, mais j'ai faim, mais Dieu existe. Je veux lui demander, voilà, c'est très important. Proverbe 16, 20, c'est à retenir. Celui qui réfléchit, c'est pourquoi j'ai dit, bon, les proverbes de Salomon, c'est très profond, très profond. Combien celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Donc, en réfléchissant, tu finiras par te confier en Dieu. Tu finiras par comprendre qu'il est amour. Tu vas comprendre, mais oui, mais il a donné quand même son fils pour moi. C'est là que ça va commencer à venir, mais en réfléchissant, tu vas te rendre compte que il y a des gens, juste la jalousie les tue. Et toi, tu n'es pas jaloux, tu es bien. C'est très important de réfléchir sur les choses. Et quand on réfléchit, finalement, on finit à Dieu. Je ne parle pas des raisonnements humains, mais de méditer sur Dieu, sur voilà, tout ce qu'il a dit, il faut faire ça. C'est important. Nous continuons.
Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède, et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. L'homme pervers prépare le malheur, et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. L'homme pervers excite des querelles, et le rapporteur divise les amis. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel.
Amen. Donc même les jets de 6 que les gens jouent, je ne sais pas comment on appelle ça ici, vous jetez un dé. Dieu, c'est Dieu qui décide. Voilà, c'est extraordinaire. Et quand on dit que les cheveux blancs sont une couronne d'honneur, c'est dans le sens de la sagesse. Hein, les cheveux blancs symbolisant la sagesse. Donc l'âge qui va en même temps que la sagesse. Mais lorsque l'âge ne va pas en même temps que la sagesse, c'est compliqué. Les gens qui sont âgés et qui ne sont pas sages, ils sont encore plus compliqués que les jeunes. Parce qu'ils sont vraiment en opposition avec le cours normal des choses. Là, les cheveux blancs devraient donner la sagesse par expérience. Maintenant, si cette expérience-là n'a pas produit ses fruits, alors ça va être un contraire très, très compliqué. C'est pourquoi je dis à tous ceux qui, à nous tous, quand nous grandissons en âge, respectons cet âge-là par un comportement sage. Respectons nos propres cheveux blancs. Il ne faut pas que tu aies des cheveux blancs, tu veux te comporter comme celui qui a des cheveux noirs. Voilà, c'est pas bon. Il faut que les cheveux blancs soient honorés. Quand tu es là, il y a apaisement, il y a construction. Pas que les cheveux noirs commencent encore à donner des conseils aux cheveux blancs. C'est une honte. Nous continuons Proverbe 17.
Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles.
Effectivement, vous connaissez le scandale qu'il y a aujourd'hui de ce grand frère de Paul Pogba qui le vilipende sur le net. Et vous dites, mais c'est la folie, c'est la sorcellerie, mais ces gens-là ont de l'argent, ils sont riches, qu'est-ce qu'ils veulent encore aller se disputer comme ça pour de l'argent? Mais il est joueur professionnel et il veut embêter son frère parce qu'il est plus riche que lui. Mais vous vous dites, mais c'est de la folie. Il y a la viande, mais avec des querelles. Et maintenant, c'est dans les réseaux sociaux. C'est grave tout ça. C'est la paix, vous savez, le bonheur vient du cœur. Ça ne vient pas de l'extérieur. Voilà, ça vient du cœur. Vous voyez des gens qui sont multimilliardaires, mais bon, qui ont besoin pour se sentir bien qu'on leur donne des coups de fouet. Mais c'est quoi ça? Mais oui, mais c'est ça la réalité. Les démons. La vraie paix, le cœur, c'est ce qui donne le bonheur. Vous connaissez la publicité de Vegas, non? Quelqu'un, il achète une limousine de 8 mètres. Son voisin jaloux, il achète de 10 mètres. L'autre achète encore de 15 mètres. Son voisin achète de 20 mètres. Vous voyez, donc, ils vont arriver à des limousines de 50 mètres. Tu ne pourras même plus conduire ça. Parce que c'est la jalousie. Alors que nous, avec notre... tu as ta petite Peugeot 108, je ne sais pas combien. Mais tu es tranquille, tu as l'impression d'être dans une Mercedes. Voilà. C'est ça, quoi. Le bonheur, ça vient de la personne. Ça ne vient jamais de l'extérieur. Parce que les gens ont cet extérieur-là. Ils continuent à être malheureux, à se créer des problèmes. Verset 2. Oui, question.
Question Internet. Que pensez-vous des gens, alors, du fait de mettre la teinture, les gens qui mettent la teinture pour cacher les cheveux blancs? Parce que tout à l'heure, tu as parlé des cheveux blancs.
Je pense qu'on ne devrait pas faire ça, mais je ne dirai pas de choses sur eux, parce que bon, c'est Dieu seul qui connaît le cœur, mais je pense qu'on devrait laisser les choses telles qu'elles sont naturellement, quoi. On ne doit pas forcer la jeunesse ou forcer, puisque comme on vient de lire là, les cheveux blancs, c'est une couronne. Voilà. C'est ça, quoi. Il y a même des modes, même qu'à un moment donné, les cheveux blancs, c'était la mode. Hein. Quelqu'un laissait une barbe blanche comme ça, ça faisait de lui quelqu'un de beau, d'extraordinaire. Hein. Donc, L'extérieur, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le cœur. Nous continuons, verset 2.
Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte, et il aura part à l'héritage au milieu des frères. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Le méchant est attentif à la lèvre inique. Le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants.
Voilà, tout ça, bien aimé, c'est dit dans un esprit de sagesse. Hein. Ce n'est pas juste comme ça, tu es père, tu es la gloire des enfants. Hein. Non, c'est-à-dire qu'on parle des pères dans le bon sens qui se comportent vraiment en père. Ouais. Et quand ils ont les enfants des enfants, nous sentons dans cela une famille solide, quoi, une famille qui tient la route. Voilà, c'est dans cet esprit-là, mais ce n'est pas juste pour avoir des enfants et qui fait que nous soyons bien vus par Dieu. Voilà. Et puis, un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte. C'est ce qui arrive quand un enfant ne se comporte pas en fonction de son père, et ça arrive à nous les chrétiens quand nous ne nous comportons pas selon que nous sommes les fils de Dieu. Nous pouvons nous rencontrer même des païens qui font mieux que nous. En ce qui concerne la bonté, c'est une honte, quoi. C'est une honte. Nous lisons, nous continuons. Verset 7.
Les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé. Combien moins à un noble les paroles mensongères ?
Une fois de plus, on risque de s'arrêter sur chaque verset. Mais quand quelqu'un, un grand voleur, un grand bandit, dit les choses sérieuses, ça étonne, ça peut même faire du bien, mais je vous assure, ça ne change personne. Parce qu'au moment où les gens veulent, se sentent comme obligés de pratiquer ce que le voleur a dit, ils se souviennent, mais lui-même est voleur, donc on peut toujours être dans de belles paroles et voler. Donc, du coup, moi aussi, je reste dans le mal, tout en ayant gardé le fait que le grand voleur avait dit une parole sage. Ça, c'est des paroles en l'air. C'est pourquoi vaut mieux même se taire. Quand on sait qu'on est voleur, on n'est pas correct, vaut mieux même pas dire des choses sensées, parce qu'on déprécie ça. Parce que les gens qui vont entendre vont dire c'est bien, mais au moment d'agir, ils vont se souvenir de la bouche qui avait dit ces choses-là et vont négliger maintenant cette parole-là. C'est pas bon. C'est pareil quand quelqu'un est sérieux, qui dit n'importe quoi, il détruit 20 à 30 ans de travail d'être sérieux à cause des paroles insensées. Et c'est pas bon. Donc quand nous savons que nous sommes sérieux, soyons sérieux dans notre discours aussi. Parce que le discours peut faire que les gens déconsidèrent tout ce qu'on a, on est, tout ce qu'on a été, quoi. C'est pas bon. Les paroles sont importantes. D'ailleurs, dans Matthieu 12, 36, je crois, c'est dit que les gens seront jugés par rapport à leurs paroles, à tout ce qu'ils disent. Verset 8.
Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis.
Voilà, ça c'est un verset que nous avons l'habitude de citer dans les enseignements de base pour dire que lorsque nous avons pardonné à quelqu'un, nous devons aller de l'avant. Nous ne pouvons pas avoir pardonné et continuer à ressasser les choses qui se sont déroulées. Ce n'est pas normal. Celui qui rappelle, il faut lui diviser les amis. Et parfois, se rappeler seulement dans son cœur, ça va créer des troubles. Aujourd'hui, pourquoi certaines femmes violées finissent par devenir des prostituées? Parce qu'à force de se rappeler le viol qui a été quelque chose de destructeur, ben, elles ouvrent des portes à des esprits qui vont les détruire. Ce rappel-là, ça divise, ça détruit. Lorsqu'on a subi quelque chose de grave, on est en Christ, les choses anciennes sont passées, allons de l'avant. Ça ne veut pas dire qu'on a minimisé la chose, mais on a saisi la gloire. C'est ça quoi. Ça valorise aussi l'œuvre de Christ à la croix. Mais lorsque on continue à penser, mais il m'a fait ceci, elle m'a fait cela, même soi-même, ça nous détruit, ça ouvre les portes à des esprits, ce qui fait que quelqu'un qui a subi quelque chose finira par faire la même chose. Comment expliquer ça? Les gens qui ont été violés finissent par violer, les gens qui ont subi la maltraitance finissent par maltraiter aussi leurs enfants, et ainsi de suite, parce qu'ils n'ont pas voulu aller de l'avant. Travaille toujours de rappeler les fautes passées, eh bien, tu ouvres des portes aux mêmes esprits dans ta vie. Bien-aimés, tournons-nous vers l'avenir avec Christ. Verset 10.
Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Le méchant ne cherche que révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui.
Oui, j'ai voulu passer le verset 10, mais je n'ai pas pu. Voilà. Une réprimande fait d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Ça veut nous dire que si quelqu'un est insensé, nous ne devons pas sans cesse lui dire « c'est pas bien ». Non, à un moment donné, quand on a déjà fait le travail, laissons les choses entre les mains de Dieu, occupons-nous d'autres personnes aussi. Nous n'allons pas qu'insister sur la même personne. Ça ne produira aucun effet comme nous venons de lire. Là. Si nous avons l'esprit nous montre qu'on a déjà fait suffisamment le travail, bon, arrêtons et allons de l'avant. Oui. Verset 11. Le méchant ne cherche que révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Oui, le méchant, il est habitué à taper, à faire, mais un jour il lui subira aussi lui-même de la part d'un autre méchant. Ça arrivera. Non, c'est pourquoi ne nous mêlons pas, ne cherchons pas à nous venger sur un méchant. Un méchant s'en occupera. Nous sommes les gens du bien. Nous n'avons pas à agir mal. Et c'est ça la tentation. Restons bons. Un méchant s'occupera de nous venger d'une manière ou d'une autre. Enfin, de rendre la pareille à cette personne-là. Et vous savez, David, quand il pouvait tuer Saül et qu'il ne l'a pas fait, il a dit à Saül, je ne l'ai pas fait, j'aime beaucoup cette phrase-là. La méchanceté revient au méchant. Voilà. Je ne suis pas méchant, je ne peux pas faire un acte méchant. Il dit, je ne l'ai pas tué puisque je ne suis pas méchant. Je ne veux pas devenir méchant parce que toi tu es méchant envers moi. La méchanceté appartient aux méchants. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Ils deviennent méchants par la méchanceté des autres. Non, la méchanceté est aux méchants. Quoi qu'on nous fasse, restons bons. C'est ça notre couronne. Oui, question.
Question Internet. Pouvez-vous expliquer le verset 8 du chapitre 17 ? Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit, ou qu'il se tourne, il a du succès.
Non, de quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. Les présents, voilà, ils ont du succès. Voilà, et c'est pour dire que les cadeaux séduisent fortement. Les cadeaux, ça séduit fortement. Beaucoup de gens ont les fait taire juste par un cadeau. Ils voulaient parler. On vous a livré quelque chose chez vous, vous n'étiez pas là. La personne s'était directement. Tu deviens ministre, tu parlais quand tu étais dans l'opposition. Dès que tu prends le ministère de télécommunication, eh bien, les Américains que tu critiquais là, quand tu étais dans l'opposition, ces Américains-là, il passe par ta femme pour te dire, bon, non, on avait une maison qui traînait, que ça ne servait à rien, mais nous pensons que ça sera bien pour votre famille, vous avez quand même 4 enfants. Donc, recevez ça comme un cadeau de bienvenue au ministère. C'est fini. Le lendemain, vous voyez le monsieur, il critiquait les Américains, il signe le dossier, je vends telle chose de la France aux Américains. Les cadeaux ont une grande puissance. Nous continuons.
Rencontre une ours privée de ses petits, plutôt qu'un insensé pendant sa folie. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison.
Voilà. Le mal produira le mal. Je crois qu'on a déjà fait une pensée du jour là-dessus. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Le mal produira le mal. Dieu seul est capable de transformer le mal en bien. Mais le mal en lui-même ne produira que le mal. On récolte ce qu'on sème. Penser se venger pour réparer, c'est continuer la chaîne du mal, prolonger les choses, alors que la bonté pouvait arrêter tout. L'amour pouvait tout arrêter, mais vouloir se venger, eh bien, ça ouvre les portes à d'autres maux. Et quand on dit rencontrer une once privée de ses petits plutôt qu'un insensé, pendant sa folie, c'est vrai parce que au moins l'ours, tu sais que tu peux fuir, tu sais déjà que c'est dangereux, mais l'insensé peut te donner l'impression parfois d'être calme et faire une grosse bêtise d'une manière inattendue. C'est cela. Soyons prudents. Nous continuons. Verset 14.
Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi.
Amen. Sans commentaire. Nous continuons.
Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé ? À acheter la sagesse. Mais il n'a point de sens. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. L'homme dépourvu de sens prend des engagements. Il cautionne son prochain. Celui qui aime les querelles aime le péché. Celui qui élève sa porte cherche la ruine. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur, et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Le père d'un fou ne peut pas se réjouir.
Mais on peut soi-même créer ce fou-là par une mauvaise éducation. D'où l'importance de l'éducation. Bien sûr en Christ. Hein. D'où l'importance de donner du temps pour faire grandir les enfants dans la droiture, la paix, l'amour, la sérénité. Autrement, beaucoup deviennent des fous. Et là, ça devient une galère. Tu as 70 ans, tu continues toujours à porter ton enfant qui a 50 ans. Voilà. C'est faut donner du temps, construire les enfants pour que vraiment tu te reposes plus tard. Nous continuons.
Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os.
Vraiment. Nous continuons.
Le méchant accepte en secret des présents pour pervertir les voies de la justice. La sagesse est en face de l'homme intelligent, mais les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre. Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qui l'a enfanté. Il n'est pas bon de condamner le juste à une amende, ni de frapper les nobles à cause de leur droiture. Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Amen. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme les lèvres est un homme intelligent.
Voilà. Donc même l'insensé, quand il se tait, Hein, il passe pour sage. Et c'est ce qui peut arriver. Vous savez, parfois, en tant que pasteur, j'ai à réunir soit des couples, soit des gens qui sont en dispute, en conflit. Maintenant, au départ, par exemple, c'est la personne A qui a tout totalement raison en apparence, parce que les accusations qu'elle porte sur la personne B, ça peut être son mari, sa femme, ou bien voilà, quelqu'un d'autre, semblent voilà, certaines. Mais le jour où tu les réunis, la personne qui semblait avoir l'avantage, eh bien, quelque chose saute de sa tête. Elle commence à parler mal. Maintenant, toi, en tant que juste juge, tu vas juger quoi? Ce qu'on t'a raconté comme accusation ou ce que tu as vu de tes propres yeux? Tu vas juger ce que tu as vu de tes propres yeux. De tes propres yeux, tu vois la personne A qui semblait être dans l'avantage. Ça peut être la femme ou le mari qui semblait être dans l'avantage. C'est elle qui explose. Donc toi, en tant que juste juge, tu finiras par comprendre que c'est la personne A qui a un problème. C'est ça la réalité. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, quand tu as raison, aie un comportement qui te donne raison jusqu'au bout. Parce que si tu as raison, et que maintenant on arrive au tribunal, c'est toi qui gaffes, mais les gens n'ont pas vu les problèmes que vous avez eu avant. Eux, ils vous voient le jour du tribunal. Ils vont tirer leurs conclusions en fonction de ce qu'ils voient. Parce qu'accuser, on peut accuser n'importe qui de n'importe quoi. Quand tu es sûr d'avoir raison, le jour où on vous réunit, aie une attitude qui favorise la raison que tu as, la position d'avoir raison que tu as. Beaucoup craquent au moment où il faut même l'insensé se tait par stratégie, le bon craque. Il fait n'importe quoi et il sort en tort. Mais quand tu as raison, protège cette position-là par une sagesse aussi extérieure. Oui.
Il y a un internaute qui demande c'est quoi l'esprit calme? C'est quoi un esprit calme? Ah bon, elle vient de dire qu'elle a compris par rapport aux explications. Il y a une autre question qui est hors sujet. C'est pas par rapport. Comment expliquer le fait qu'Abraham, qui a menti au sujet de Sarah, n'ait pas été puni par Dieu? Alors que d'autres, comme Moïse et d'autres serviteurs, l'ont été.
Qui a menti à propos de Sarah, dans quel sens?
Quant à Abraham, il a dit que voilà, c'est ma sœur, c'est pas ma femme.
Nous en avons déjà parlé, c'est sa sœur ou c'était sa sœur aussi? Donc, d'une manière officielle, il n'a pas menti. Mais d'une manière intentionnelle, là on peut dire qu'il a voulu faire croire quelque chose pour éviter des problèmes. Mais ce qu'il a voulu faire croire là, c'est que ce n'était pas sa femme. Mais en disant que c'était sa sœur, il ne mentait pas. Voilà. Et donc ça fait partie des sujets difficiles. Moi, je ne peux pas me risquer là où Dieu n'est pas intervenu pour frapper quelqu'un, dire non, il fallait que Dieu... Non, je suis un simple ouvrier de Dieu, serviteur de Dieu, petit. Je n'ai pas le temps de contredire Dieu. Je suis là comme un chien devant lui. Je regarde là où il regarde, moi je regarde. C'est tout. Voilà. Du moment que Dieu n'est pas intervenu, moi je n'interviens pas. Comme beaucoup élaborent des théories sur ce que Dieu lui-même n'a pas dit. Moi, je suis pas ce genre de grand là. Moi, je suis un petit. Voilà. Donc ce que Dieu dit, je reste sur ça. Ce qu'il ne dit pas, moi je ne dis pas non plus. Je suis seulement. Et c'est ce que nous devrions nous tous faire. Il faut craindre l'Éternel. Nous allons prier que Dieu nous aide à pratiquer tout ce que nous entendons comme parole de sagesse, bien-aimés. Que ça ne soit pas une affaire d'études bibliques. Et puis, dès qu'on soit... Il y en a même qui se disputent dès qu'on finit les études bibliques. Hein? non, mais c'est pas bon. Donc, c'est pour vivre cela. On a dit l'esprit calme. Donc, ayez un esprit calme au nom de Jésus-Christ. Ayons, Seigneur, nous prions que nous ayons un esprit calme, que tu nous donnes d'être en paix, de ne pas chercher à brutaliser, à vouloir avoir raison, à nous imposer, à trop parler. Au nom de Jésus, que toutes les leçons qui sont nombreuses et qui peuvent parfois échapper au cerveau soient gardées par notre esprit qui, lui, a des capacités illimitées pour nous les remettre au bon moment. Au nom de Jésus, aide-nous à pratiquer, Papa. À toi la gloire pour ces révélations qui éclairent les petits que nous sommes. Amen. Gloire à Dieu.